Sur RFI.
RFI 6h30 à Paris et Kinshasa, 5h30 en temps universel. Paul Lonsin-Spinelli pour le journal. Bonjour Paul.
Bonjour Nemo en piste, bonjour à tous.
Et à la une, Bukavu, globalement épargné par les combats dans l'est de la RDC, les habitants ressortent de chez eux.
Contrairement à Goma, l'entrée du M23 soutenue par les troupes rwandaises dans la capitale du Sud Kivu dimanche s'est faite sans combattre. Témoignage à suivre en début de journal d'un acteur de la société civile de Bukavu. Goma, qui était le théâtre hier d'une manifestation devant les locaux de la MONUSCO pour demander le départ de cette mission onusienne des autres forces internationales et l'évacuation de militaires congolais réfugiés dans ces bâtiments. Un rassemblement organisé par des jeunes proches du M23. Une visite symbolique dans le Sahara occidental pour la ministre française de la Culture, Rachida Dati, alors que Paris s'est engagé à soutenir diplomatiquement Rabat qui administre ce territoire, alors que les indépendantistes du Front Polisario le revendiquent. Et puis au Cameroun, l'opposition et la société civile proposent de nouveau au président Paul Biya leur projet de réforme du code électoral. Un retour progressif à la vie normale pour les habitants de Bukavu dans l'est de la République démocratique du Congo. Contrairement à Goma, la capitale provinciale du Sud Kivu, elle a globalement été épargnée par les combats lors de l'entrée dans la ville du M23 et des troupes rwandaises. C'était dimanche. Hier, la situation était toujours relativement calme. Les habitants ont même commencé à ressortir de chez eux, comme l'a observé Josué Kayeye, un acteur de la société civile de Bukavu.
Je suis personnellement soulagé que les choses se soient passées comme telles et qu'il n'y ait pas eu ce genre de dérapage. Pour l'instant, nous pouvons dire que le sentiment est partagé parce que, avec leur entrée, on a eu à stabiliser la confusion qui régnait déjà depuis jeudi dans la ville. Qu'il y avait déjà une cacophonie où tout le monde pillait, tout le monde faisait tout ce qu'il pouvait faire. Et tout ce qui avait des armes, les civils ou les autres malfrats qui avaient des armes faisaient la loi. Donc, ils ont restauré un tout petit peu l'ordre. En tout cas, cette peur n'est plus parce qu'on craignait plutôt les affrontements. Donc, la peur qui peut exister, c'est plutôt une peur relative à ce qui pourra suivre. Donc, on reste encore très observateur. En tout cas, le sentiment est partagé pour l'instant.
Josué Kayeye, joint par Alexandra Branjon. Si le calme règne à Bukavu, l'offensive du M23 soutenue par le Rwanda dans le sud Kivu provoque des déplacements de population vers le Burundi. Hier, le gouvernement burundais a indiqué que 10 000 personnes avaient franchi la frontière ces trois derniers jours en optant pour le point de passage officiel de Gatumba ou en traversant la rivière Rusizi. Dans le nord Kivu, cela fait plus de 3 semaines que la capitale provinciale Goma est sous contrôle du M23 et des troupes rwandaises selon les autorités congolaises. Et hier lundi, une centaine de personnes s'est mobilisée devant les bases de la MONUSCO. Un sit-in s'est organisé pour demander le départ de la mission onusienne et des autres forces internationales. Les manifestants ont aussi réclamé l'évacuation d'urgence des militaires de l'armée congolaise qui se seraient réfugiés dans les sites de la MONUSCO. Sabine Mellet.
La manifestation est organisée par des jeunes proches du M23, soutenus par le Rwanda. Ici, les messages sont clairs. Les calicots affichent en toutes lettres « Nous exigeons le départ des forces SAMI-RDC ». Pour les manifestants présents, il n'y a pas de concession possible.
La population de Goma a compris que la présence des éléments FRDC et Ouazalène, parce que n'importe quand, ils peuvent se rebeller. Et les armes sont encore gardées dans les dépôts des cas de MONUSCO, donc ils peuvent les récupérer et qu'il y ait encore des probabilités de guerre en ville.
Si on peut les lâcher pour qu'ils puissent partir, parce que ça présente déjà un danger pour nous, on ne sait pas pourquoi on les garde dans les camps de la MONUSCO. Ce sont des soldats, ne sont pas des civils. Nous demandons la sortie d'urgence immédiate de ces gens.
À l'aéroport international de Goma, devant la mission de l'organisation de l'ONU, même son de cloche. Olivier Loba est fermement déterminé à ne rien lâcher jusqu'au départ de la MONUSCO.
Si la MONUSCO ne répond pas à notre demande, ça veut dire que nous allons rester là-bas. Nous continuerons à faire des sittings afin que ces gens puissent sortir. Parce que ce n'est pas la MONUSCO qui est en danger, c'est la population gomaine qui est en danger.
Des centaines de militaires des FARDC et leurs alliés Ouazalendo seraient dans ce camp. Ici, les relations entre la MONUSCO et les M23 sont tendues.
Récit de Sabine Mélé. C'est une visite au Sahara occidental qui consolide encore le rapprochement entre le Maroc et la France. Hier, la ministre française de la Culture, Rachida Dati, s'est rendue dans cette zone administrée par le Maroc, mais revendiquée par les indépendantistes du Front Polisario. Un geste de plus en faveur de la reconnaissance par Paris de la souveraineté de Rabat sur ce territoire, Mathias Reynal.
L'image a fait le tour des médias marocains. La ministre française de la Culture, Rachida Dati, en tenue traditionnelle sahraoui, dans une rue de Tarfaya. Elle s'est aussi rendue dans la ville de La Hayoun, où elle a participé au lancement d'un centre culturel, une antenne de l'Alliance française, avant de rejoindre Darla, sa dernière étape. La ministre a qualifié d'historique sa visite au Sahara occidental, une visite qui démontre, selon elle, que le présent et l'avenir de cette région s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. Des mots empruntés au président français qui a proclamé l'été dernier le changement de position de son pays dans le dossier du Sahara, apportant un soutien appuyé au plan d'autonomie proposé par Rabat. Selon un communiqué du ministère de la Culture marocain, cette visite revêt, je cite, une dimension politique après la reconnaissance par la France de la pleine souveraineté du Maroc sur ses provinces du Sud. Ce voyage très symbolique intervient après la visite d'État au Maroc d'Emmanuel Macron. C'était au mois d'octobre. Le président français avait alors promis à Rabat l'engagement diplomatique de Paris afin de soutenir la solution marocaine sur le Sahara occidental à l'ONU et à l'Union européenne. Mathias Reynal, Casablanca, RFI.
Et Rachida Dati qui terminera aujourd'hui, mardi, son déplacement officiel au Maroc. Le Royaume qui accueille à partir d'aujourd'hui un sommet international de l'OMS sur la sécurité routière. C'est le premier à être organisé en Afrique. L'objectif est d'explorer des pistes pour réduire ce chiffre d'1 200 000 morts sur les routes en 2021. Données dévoilées dimanche par l'Organisation mondiale de la santé, en légère baisse par rapport à la précédente estimation datant de 2010, mais toujours loin des objectifs affichés. Un dossier complet à retrouver dans une heure sur Radio France Internationale. En Algérie voisine, l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, opposant au pouvoir, est toujours incarcéré depuis la mi-novembre. Une affaire au cœur de tensions entre Paris et Alger. Son comité de soutien prévoit une soirée dans la capitale française en sa et sa présidente, Noëlle Lenoir, ancienne ministre française des Affaires étrangères, sera l'invitée d'Edouard Dupénoit pour en parler à 6h20 temps universel. En Tunisie, entre la prison et l'hôpital, hors de question de lâcher le combat pour l'une des dernières opposantes à Raïs Saïed. Habir Moussi a été hospitalisé dimanche soir après 6 jours de grève de la faim. À cette détractrice fervente du président tunisien est emprisonné depuis octobre 2023 et hier, l'avocate comparaissait de nouveau devant un juge, Lilia Blaise.
À peine sorti de l'hôpital ce lundi, Habir Moussi s'est présenté devant le juge à une audience où elle était convoquée au tribunal de première instance de Tunis. Elle comparaissait suite à la plainte pour diffamation d'une association qu'elle avait accusée d'être une extension des mouvements islamistes en Tunisie. Pour cette avocate, fervente anti-islamiste et femme de poigne en politique, il s'agissait surtout avec cette audience d'envoyer un message, affirmer son respect pour l'État tunisien, selon ses mots, face à une justice qui s'acharne contre elle. Devant le juge, elle n'a pas voulu parler, selon le récit de ses avocats. Depuis des jours, elle refuse que ses avocats la représentent à ses audiences, ne croyant plus à un procès équitable. Présidente d'un parti politique qui rassemble encore de nombreux sympathisants dans la rue, Habir Moussi est connue en Tunisie pour son franc-parler en politique et son opposition fréquente aux islamistes lorsqu'elle était députée entre 2019 et 2021. Sa situation actuelle a suscité la réaction des associations féministes qui ont dénoncé lundi son transfert dans une autre prison pour femmes à 60 km de Tunis. Elles ont également exprimé leur solidarité. Lilia Blaise, Tunis, RFI.
C'est une défaite d'autant plus dure à avaler au vu de la confiance affichée par la présidence kényane. L'opposant historique Raila Odinga, soutenu par le pouvoir, a été battu pour prendre la tête de la commission de l'Union africaine. C'est Mahmoud Ali Youssouf, le ministre des Affaires étrangères djiboutien, qui a été nommé samedi lors du sommet d'Addis Abeba. Un retour de bâton pour William Ruto. En effet, pour de nombreux observateurs, la défaite de Raila Odinga, c'est avant tout la faute des choix politiques du président kényan, Gaël Alex.
Pour le sénateur Richard Onyonka, la diplomatie de William Ruto était un boulet au pied de Raila Odinga. Il lui reproche notamment ses liens avec Emeti, le chef des forces de soutien rapide, paramilitaire engagé dans la guerre contre l'armée soudanaise. Le Kenya soutient également Israël et n'a pas condamné les atrocités commises à Gaza, poursuit le sénateur. Mais c'est surtout la crise dans l'est de la RDC qui a pesé, selon Kalonzo Musyoka. L'ancien vice-président de Mwai Kibaki pointe du doigt la médiation ratée du processus de Nairobi, ainsi que la position ambiguë de William Ruto. N'est-ce pas dans la capitale kényane que l'alliance fleuve Congo, branche politique du M23, est née? Et puis, il y a ce coup de fil au président français au lendemain de la chute de Goma. Qui veut s'engager avec Emmanuel Macron sur des questions africaines, interroge Pielo Lumumba, directeur de l'école de droit du Kenya. Enfin, selon l'avocat David Ochami, William Ruto n'a dupé personne sur ses réelles intentions. Il ne soutenait Raila que pour se débarrasser de son principal opposant, explique-t-il. 33 chefs d'État ont refusé d'être otage de la politique domestique kényane, conclut sur X le porte-parole du nouveau président de la commission. Gaël Alex Nairobi, RFI.
Au Cameroun, c'est un courrier qui sonne comme une piqûre de rappel. La plateforme de l'opposition et de la société civile a déposé hier pour la deuxième fois son projet de révision du code électoral alors que la prochaine présidentielle est prévue pour octobre. Interpellé publiquement à ce sujet le 11 janvier dernier par la présidente de l'Union démocratique du Cameroun, l'UDC, Patricia Tomaino Ndam-Joya, Paul Biya avait répondu ne pas être au courant de l'existence de ce document. Le président camerounais y avait par ailleurs montré un certain intérêt. Les membres de l'opposition n'ont donc pas manqué de saisir cette perche pour pousser leur projet, Polycarpe Samba.
C'est par simple transmission via le service courrier de la présidence contre décharge que le document à destination de Paul Biya lui a de nouveau été envoyé, en mode de transmission que Kupita Adamu, député de l'UDC et émissaire de la plateforme, juge suffisant pour que le document parvienne à son destinataire, en dépit du fait que le président camerounais a récemment déclaré n'avoir pas reçu la première copie déposée par le même moyen il y a 4 ans.
En déposant sur décharge, le président de la République doit l'avoir, et nous croyons qu'il aura un courrier introduit à la haute attention du chef de l'État doit lui parvenir. Et c'est à lui de diligenter et de dire s'il accorde une suite favorable ou pas.
Le document qui compte 66 propositions résulte d'un consensus entre acteurs de l'opposition et la société civile, explique Kupita Adamu, ne reste plus, estime-t-il, qu'à avoir la position du chef de l'État.
Le travail qu'on vient de proposer au président de la République est le résultat déjà d'un consensus. Les leaders de la plateforme pensent seulement que pour avoir un consensus le plus large possible, il faut intégrer la position de l'État.
Alors que l'élection présidentielle est attendue dans 8 mois environ, les initiateurs de ce texte croient toujours possible un accord général entre pouvoir et opposition.
L'opposition a fait le gros du travail. Il reste au chef de l'État de voir le point de convergence, le point sur lequel il est d'accord et sur lequel il ne serait pas d'accord avant qu'on aille aux élections. Cela reste faisable.
Premier rendez-vous plausible pour l'étude de ce texte, la session parlementaire prévue pour le mois de mars prochain. Polycarpe Samba Yaoundé, RFI.
Et je vous rappelle l'un des principaux rendez-vous de cette matinale sur Radio France Internationale. Notre invité, Noëlle Lenoir, ancienne ministre déléguée française aux affaires européennes, présidente du comité de